L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Alors, beaucoup d'histoires de déportés s'inscrivent dans le marbre, des stèles, des monuments commémoratifs, du laiton des Stolperstein ou encore sur papier dans des livres. Vous, Marie Dumora, vous avez réalisé un documentaire de témoignages de personnes ayant vécu proche du camp de Struthof. Alors, ce film s'intitule « La ligne bleue ». Il est projeté à Strasbourg, il sort à Paris le 16 septembre prochain. Marie Dumora, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est question dans ce documentaire de ces merveilleux paysages vosgiens, cette ligne bleue, cette fameuse ligne bleue, s'allie par ce camp. La stupeur reste la même 80 ans plus tard, aujourd'hui, chez les protagonistes de votre documentaire.
Oui, c'est ce qui m'a impressionnée quand je suis arrivée là-bas. C'est un film précédent qui m'a conduite, c'est toute ma filmographie en fait. J'ai réalisé une dizaine de longs métrages. Et à chaque fois, c'est le personnage d'un personnage d'un film qui jusqu'ici m'avait amené au film suivant. Et là, c'est l'histoire du personnage, puisque ses arrière-grands-parents avaient été déportés enfants au camp de Schirmeck, avaient eu la chance de s'échapper, s'étaient aimés par la suite, avaient eu une lignée d'enfants, de petits-enfants, dont ce jeune garçon que j'ai filmé, Nicolas, merveilleux, que j'ai filmé entre ses 3 ans et ses 15 ans, un genre de boyhood yéniche alsacien. Et son grand-père, son arrière-grand-père, évoque dans une scène du film la déportation de ses parents, comme si c'était quelque chose de presque une persécution parmi d'autres, en disant « bon, le problème c'est qu'ils se sont rencontrés dans un camp, ça aurait pu être dans des conditions plus favorables ». Évidemment, ça m'a stupéfaite. Excusez-moi pour cette digression. Voilà, donc je reviens à ce film-là et je me retrouve physiquement donc entre Schirmeck et Natzwiller, dans ce lieu sublime de beauté. Et il me semble que ce passé est très, très, très prégnant, très proche. Je rencontre des gens qui m'en parlent comme si ça s'était passé hier, mais vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un ouvre la commode de sa salle à manger et sous une pile de serviettes, il y a un étui à cigarette sculpté à l'aide d'un fil de fer barbelé par un co-déporté de son père, qui était peintre et qui voilà, un cadeau fraternel de déporté à déporté. Et ainsi de suite. Et les gens me disent, et je vois par la fenêtre des gens qui voyaient, enfin ils me disent qu'ils voyaient les colonnes de déportés, là je parle des plus anciens bien sûr, les derniers, les colonnes de déportés montées qui ne redescendaient jamais. Ça m'a donné l'idée de faire un film, non pas pour documenter la chronique du camp, parce que je pense que c'est très nécessaire, il faut que ce soit fait, refait, et qu'on n'oublie jamais, et qu'on continue ce travail, mais j'ai eu envie de filmer le contre-champ du camp, qui pose des grandes questions assez universelles quand même, je pense. Quel est l'impact? Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve pris dans ce chaos-là? Comment les gens l'ont vécu? Comment les gens ont réagi à tout ça? Quelles ont été leurs visions? Qu'est-ce qui reste de leur vision? Qu'est-ce qui s'est déposé dans les mémoires? Quelles sont les questions qu'on peut se poser, nous, en regardant ça? Même s'il n'y a pas de réponse, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Ceux que j'ai choisi de filmer ont été, pour la plupart, très solidaires, enfin très courageux. Il y a eu des petits gestes de résistance qui ne passaient pas par des réseaux de résistance, mais qui consistaient à faire passer une lettre, un peu de nourriture. Pour eux, c'est du simple bon sens. Mais ça n'allait pas de soi, pour tout le monde, on s'en doute bien. Et c'est ça qui m'a intéressée. Voilà, j'ai voulu raconter tout ça, essayer de mettre ça en scène, de filmer des récits qui soient un peu incarnés, qui nous ramènent à des scènes qui se sont passées ici, même dans ces lieux.
Alors, ce sont des habitants des villages de Roto, de Natzwiller, de Neuwiller.
Oui.
Ils se livrent avec aujourd'hui un poids familial. Vous avez eu l'impression qu'ils se déchargent de ce poids familial. Il y avait des gens qui avaient envie d'en parler, qui vous attendaient, où il y a eu une sorte de réticence quand même, aujourd'hui encore, peut-être une peur, comme la personne qui en a proposé d'être honorée de la reconnaissance des justes parmi les nations et qui n'a pas voulu par peur des nazis. Donc aujourd'hui encore, il y a quelque chose qui flotte de cette peur-là. Est-ce qu'elle est ancrée chez eux et chez leurs descendants?
J'ai l'impression que, alors c'est très difficile de parler à la place des gens, puisqu'ils ne sont pas là, mais beaucoup de personnes m'ont dit « c'est bien que vous veniez maintenant, parce que jusqu'ici, c'était trop, on n'en a pas parlé ». Puis d'ailleurs, dans le film, des gens disent « on n'en parlait pas, notre père n'en parlait pas », c'est-à-dire que même, on sait que les victimes se sentent souvent coupables, on le sait, c'est épouvantable, mais c'est comme ça. pour des gens qui ont commis des actes à la fois héroïques, cette postière de Roto, enfin, c'est poignant son récit quand les gens sont partis pour la marche de la mort et qui ont jeté des papiers devant sa poste parce qu'ils savaient que c'était une des leurs, enfin une personne qui était du bon côté et qui, après leur passage, a ramassé tous les papiers, a écrit à toutes les familles, etc., mais qui a fait avant des choses beaucoup plus dangereuses aussi, ou cet ancien déporté, enfin, dont la fille raconte combien... il n'en parlait pas, mais parfois il courait sur le toit de la maison, convaincu d'être poursuivi. Enfin, il a survécu, mais dans des conditions assez terribles. Tout ça me fait dire que, évidemment, on sait très bien que la parole n'est pas facile du tout, et que peut-être le temps passant, ça permet quand même de libérer un peu quelque chose de soit de la culpabilité, soit de la peur de ne pas être cru, soit de je crois que c'est dans Histoire de ténèbres et d'amour d'Amos Oz, enfin, il raconte ça très bien, comment en arrivant les rescapés de la Shoah, en arrivant en Palestine, en Israël, enfin, n'en parlaient pas alors qu'ils arrivaient directement d'Ukraine, et puis Aaron Appelfeld, enfin, on sait très bien le temps qu'il était muet pendant des...
Le temps de la sidération.
Pour la plupart, ce sont des enfants. Je trouve ça assez puissant on sait que les dégâts collatéraux sont immenses dans ces histoires-là et ne s'arrêtent pas à la victime immédiate. Et que ça se transmet par l'imaginaire, par toutes sortes de choses que je n'ai pas énumérées. Mais ce qui m'a impressionnée, c'est que c'était aussi le cas pour les personnes qui ont, si j'ose dire, juste vu. Mais c'est, en fait, si on est du côté de l'humanité, c'est sidérant aussi d'assister à ça. De se retrouver, en plus, avec des nazis dans la maison. Enfin, c'est quand même pas facile tous les jours, j'imagine.
Oui, il y a des nazis qui se sont installés chez les habitants de Natzwiller ou qui ont réquisitionné leur domicile. Il y a également...
C'est pas les Polonais de Shoah, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Enfin, c'est une situation très différente, évidemment.
Et également des enfants qui sont allés à l'école avec les enfants de SS, de nazis, du commandant du camp, à qui on a dit de ne pas parler, de ne pas raconter où était leur oncle, où était leur père. Et ils l'ont fait, ils ont tous réussi à se taire. Personne n'a jamais dénoncé qui que ce soit.
Bah, l'histoire est insensée. C'est pour ça que je tenais à filmer les gens dans les lieux où il s'était passé quelque chose à l'époque. Je n'ai pas voulu les coincer, si j'ose dire, devant leur buffet ou devant leur bibliothèque, parce que j'avais envie vraiment que la mémoire revienne et qu'elle soit incarnée avec des couleurs, des scènes, des détails. Et effectivement, cette femme raconte que sa mère, enfant, était en classe, là où j'ai filmé, hein, aux côtés, la scène dans le film, de Wolfgang et Hildegard, les enfants du commandant du camp. Et donc, comme les enfants se côtoyaient à l'école, cette femme, dont le grand frère avait déserté, ne voulait pas porter les bottes, ne voulait pas se battre, évidemment, du côté des SS, donc les Allemands avaient immédiatement déporté la mère, ce qui était une pratique assez... courante et selon des méthodes assez mafieuses qu'on fait. Donc cette petite fille se retrouvait à goûter avec sa copine Hildegard et entre deux tartines de confiture, le commandant du camp lui demande où est son frère et elle a tenu bon. Elle n'a rien dit. Idem pour l'instituteur qui est allemand qui demandait à son camarade là, tout le temps où était son père qui avait été lui... dénoncé. Donc voilà, et je trouve que c'est quand même très. Ça m'a semblé assez intéressant de recueillir ces récits-là, qui sont assez peu entendus, en fait, jusqu'ici, j'ai l'impression.
Et quelque chose dont on n'en parle jamais, enfin, ou très peu, qui n'est pas notifié dans les livres, c'est le dentiste du Struthof.
Oui. Oui, alors ça, c'est, je vous assure que c'est une des choses qui m'a... Évidemment, quand on était en montage avec ma monteuse n'arrivait pas à le croire. Mais effectivement, le dentiste, un des protagonistes l'explique, toutes ces communes étaient allemandes, en fait, du fait de l'annexion. Elles étaient devenues allemandes. Donc ça ne posait pas de problème. Enfin, il y avait un dentiste allemand, donc, qui était affecté à toutes les personnes de ces communes. Et ça semblait parfaitement normal de mettre le dentiste à l'entrée du camp. Ce qui a permis donc de faire passer toutes sortes de choses, puisque j'ai eu la chance de pouvoir retrouver Edith, c'est une dame qui est protestante et qui a maintenant 101 ans, je crois, et qui en avait 16 à l'époque. Et avec ses copines, ses trois camarades, elles avaient 15-16 ans. Quand une avait mal aux dents, les trois autres l'accompagnaient pour se donner du courage. Et elle faisait passer des petites choses aux déportés, et puis de plus en plus, des lettres aux familles, puisque c'était des Nartounébel destinés à disparaître dans le brouillard. Et dont les familles étaient complètement privées de nouvelles et d'informations, ce qui c'est terrible, hein, évidemment. Voilà. Donc ce dentiste, la présence de ce dentiste semble complètement folle, mais elle était bien réelle.
Alors l'histoire du camp, de la route construite par les déportés, la construction de la chambre à gaz en face du bistrot du village, cette histoire s'inscrit aujourd'hui dans les histoires familiales de Natzwiller. Ce village, il est un petit peu à part. Ces gens continuent pour beaucoup de vivre sur place. Ils parlent de la maison de leurs parents, de leurs grands-parents. Oui. Il y a quelque chose de très fort. Ils sont très émus. Ils continuent eux aussi d'élever leurs enfants ici. Mais ces constructions, j'allais dire ces infrastructures autour du village, cette histoire terrible, certainement... L'atmosphère, j'allais dire, pour peu qu'on soit un petit peu spirituel, ces âmes qui se sont envolées à cet endroit-là, fait partie aujourd'hui, s'inscrivent dans les histoires familiales.
Oui, et à propos de... Bon, puisque vous avez dit le mot des âmes, j'ai beaucoup ressenti... j'ai choisi au début de filmer, dans un premier temps du film, depuis les fenêtres des gens, puisqu'ils n'ont pas changé de maison, ou ils ont changé de 20 mètres, mais ils habitent les maisons de leurs parents, etc., qui étaient là depuis la nuit des temps, qui étaient des gens qui cultivaient le seigle, l'orge, qui tissaient un peu avec des métiers mécaniques, mais qui étaient là et qui ont juste... Les autres ont déboulé, bon, voilà. Ils n'allaient pas partir après, pour où, quoi. Et tant mieux, d'ailleurs, qu'ils ne soient pas partis, parce que... J'ai commencé par filmer cette sorte de leur point de vue, et puis, puisque c'était mon point de vue, mon parti pris, c'était de filmer exclusivement autour les petits villages, Natzwiller, Neuwiller, Wildersbach, autour du camp, les trois villages. J'ai choisi comme espace scénographique la carrière de granit, ce qui a fait venir l'architecte d'Hitler, qui était là pour, en villégiature, pour faire du ski ou que sais-je, et qui s'est dit que c'était joli, et qu'on pouvait extraire le granit rose pour fabriquer les monuments du Reich. Donc dans cette carrière se côtoyaient des civils, donc ces gens qui étaient réquisitionnés pour travailler quand ils étaient trop jeunes pour aller sur le front russe, ou voilà, et des déportés. Aujourd'hui, quand j'ai tourné là-bas, j'ai vraiment pensé notamment à cette peintre rome, Staya Stoïka. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition extraordinaire qui a été déportée dans plusieurs camps, enfant avec sa mère qui a survécu. Voilà, et qui a peint, je crois, 40 ans seulement plus tard après, toujours ce même temps de sidération. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, ça ne m'appartient pas, mais... Bon, qui nous a légué une œuvre remarquable, et qui disait après que quand elle allait à Auschwitz ou quand elle retournait dans un camp, elle avait le sentiment que dans chaque brin d'herbe, il y avait l'âme de ses frères. Et ça, ça semble un peu galvaudé de le dire comme ça, mais vraiment, on le ressent très fortement, pour ma part, dans la carrière de granit, où il y a eu beaucoup de décès aussi. Hein. Enfin, je veux dire, les gens travaillaient jusqu'à l'épuisement. Enfin, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, c'est... Bon, voilà.
Alors, au milieu de toutes ces histoires, de ces témoignages souvent émouvants, il y a une belle histoire d'amour également qu'une fille raconte de sa maman qui a rencontré un déporté via un portrait. Et c'est vrai qu'au milieu de ces histoires terribles, de ce passé familial souvent lourd, vous aviez envie de raconter cette jolie histoire.
Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire complètement folle qui est née d'un courage, qui est née d'un geste de courage. C'est-à-dire que la mère de cette femme lavait son linge dans sa petite courette, et quand elle a vu par le haut du chemin un SS arriver avec des déportés, et ce SS laisser manger les pommes de son jardin à ses déportés, cette femme, assez courageusement, s'est dit « Tiens, celui-ci, il est peut-être un peu moins bon que d'autres. » Je tente ma chance, et elle propose une soupe à tout le monde, ce qui est quand même pas banal. Donc j'ai filmé dans cette maison, le même endroit, le même petit sentier qui monte, etc. Et c'est parti dans une histoire complètement folle, à la fois d'amour, de résistance, ça se termine, c'est merveilleux parce que ça donne évidemment lieu à la naissance d'Antoinette, qui est là pour nous raconter tout ça, mais On n'occulte quand même pas que son père, certes, a survécu à la déportation, mais dans des c'était un des premiers d'ailleurs déportés, son numéro est très, je sais, mais dans des conditions effroyables, et la famille évidemment était très marquée. Mais cependant, il reste le Kindamen de Lucrèce. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui dérape, qui à un moment fait que tout est possible, y compris un SS qui était un vieux charpentier de 60 ans qui s'est retrouvé coincé à faire le SS et qui n'avait pas du tout... Enfin, ça, c'est assez rare, hein, c'est des exceptions qui confirment.
Malgré lui aussi.
Enfin oui, en tout cas, pas convaincu, allemand. Hein.
Alors, je voulais parler du temps, du silence, ce silence que vous laissez volontairement, ou le bruit des feuilles qui craquent. Ces silences, quand on fait un documentaire, quand on est dans la captation de témoignages, il est important.
Oui, bien sûr, parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse s'identifier aux personnes, revivre les scènes, les imaginer nous aussi à notre tour. Donc je ne voulais pas asséner des propos, parler. Enfin, c'est pas un c'est pas des interviews, même si c'est très important la parole, mais c'est très important quand même de laisser des silences, des temps pour qu'on puisse se faire une représentation aussi, mesurer l'émotion évidemment qui passe aussi par les silences, mesurer tout le temps qui a passé, mesurer toutes sortes de choses, se les approprier à nos façons, j'espère, en restant toujours du point de vue à la fois de celui qui raconte, pris dans son cadre, dans son paysage littéralement, et trouver notre place nous dans ces récits-là, se peut projeter quoi.
Vous avez fait valider votre scénario par l'historienne Frédérique Naud-Dufour, une Alsacienne bien connue, qui était directrice du Centre CERD, du Résistant du Déporté, donc au Struthof. C'est important pour vous d'avoir la validation historique?
Oui, d'autant que Frédérique a eu l'intelligence, je lui ai expliqué tout de suite mon point de vue, je lui ai dit je ne vais pas faire un film historique, ce ne sera pas un film historique stricto sensu avec des dates et des faits, des chiffres, etc. Ce sera un film assez libre, mais qui, je pense, peut quand même enrichir l'historiographie de tout ça. Moi, j'ai confiance. Le parti que je prends, c'est celui du récit oral, du récit, l'idée de prendre la parole, de pouvoir que les gens en prenant la parole font l'histoire. J'ai pris ce parti-là à partir du moment où j'ai un peu réfléchi à l'organisation du récit aussi. Et Frédéric a tout à fait joué le jeu, c'est-à-dire que je l'appelais de temps en temps pour lui dire « Mais attends, Frédéric, c'est quoi cette histoire de dentiste ?» Donc elle m'expliquait, etc., parce que je ne voulais pas non plus qu'il y ait des énormités. Mais on était convenus ensemble que c'était le point de vue des gens. Donc il ne fallait pas surplomber, même si Frédéric est une immense spécialiste. Mais elle m'a été d'un grand appui. Je l'appelais de temps en temps. Je disais mais enfin. Et voilà. Donc à la fin, elle a vu le film. Et c'était important quand même pour moi qu'il n'y ait pas d'énormité qui aurait pu causer préjudice au film. Enfin.
Dernière question, Marie Dumora. Qu'est-ce que vous garderez de ce tournage?
Beaucoup de chagrin et une consolation.
Laquelle?
Celle que il peut tout de même y avoir des hommes dans les moments les plus effroyables qui nous ramènent à notre part d'humanité.
Merci à vous.
Merci.
Le film de Marie Dumora, La Ligne Bleue, sera présenté dans différentes salles dans la région avant de sortir à Paris. Ainsi, il sera présenté le mercredi 16 septembre à la Passerelle à Rixheim, le jeudi 17 à 14h à la MAC de Bischwiller, le jeudi 17 à 20h à la Bouilloire à Markolsheim, le vendredi 18 septembre à 19h30 au Florival à Guebwiller, le samedi 19 septembre à 17h au cinéma Bel Air de Mulhouse, le samedi 19 septembre à 20h au cinéma La Coupole à Saint-Louis, le dimanche 20 septembre à 14h30 à Lérient à Erstein, le dimanche 20 septembre à 17h30 au Rohan à Mutzig et enfin le dimanche 20 septembre à 20h à Roto au Royal.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.